Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Aujourd'hui, nous allons parcourir et lire, mais surtout donner envie à nos auditeurs de lire un ouvrage, une bande dessinée qui a pour titre un travail comme un autre. Alors, un titre sur lequel nous nous sommes interrogés sans tout à fait retrouver l'origine. Mais c'est vrai que finalement, chacun d'entre nous, on pourrait adhérer à ce titre-là. Est-ce que finalement, on ne fait pas chacun un travail comme un autre? Bon, j'en sais rien. Moi, j'aurais envie de dire qu'il vaut mieux faire quelque chose que l'on aime faire. Et à chaque fois que je parcours les petites annonces, je me dis que j'ai quand même beaucoup de chance d'être à ce micro avec vous aujourd'hui, Thierry. Alors voilà, Un travail comme un autre, c'est à l'origine un roman de Virginia Reeves, une jeune romancière américaine, publiée en 2016, si je ne me trompe, et aujourd'hui en français, paraît aux éditions Sarbacane, donc Un travail comme un autre, d'Alex W. Inker. Je ne me suis pas plus renseigné que cela. Par contre, sur cet auteur de bande dessinée, son nom semble indiquer qu'il est lui aussi américain, mais vous aviez lu, Thierry, un certain nombre de ses précédentes bandes dessinées.
Oui, j'avoue humblement de n'avoir pas toujours été convaincu par ce que j'avais lu. C'est quelqu'un qui a du talent indéniablement, une patte graphique très caractéristique. Son défaut, ce serait sa propension aux détails, aux gros plans, qui faisait que certains livres que j'avais lus précédemment souffraient, à mon sens, d'un certain manque d'aération. En disant ça, je pense à Sauver le peuple, qui était une histoire qui se passait en Chine pendant la Révolution culturelle. Une histoire pleine de souffre, de rapports de domination...
Entre humains.
Entre humains, de perversion, mais l'époque s'y prêtait, enfin, toutes les époques s'y prêtent d'ailleurs. Mais je trouvais que ça souffrait beaucoup d'une certaine promiscuité qui nuisait à la pure narration, promiscuité graphique, si j'essaye d'évoquer ce que ça peut donner à l'œil. Ce que je n'aurais pas reproché à Panama Al Brown, qui était une biographie. Panama Al Brown, c'était un boxeur noir qui a connu une notoriété en tant que pratiquant du noble art dans l'entre-deux-guerres, mais qui a aussi connu une notoriété en tant que, on dirait aujourd'hui, people, célébré dans les milieux parisiens chic et bohème, ami et amant de Jean Cocteau, où là, la façon de raconter était d'une efficacité, d'une clarté sans reproche possible. Un travail comme un autre, c'est... Alors moi, je dirais, j'ose le dire, c'est, je pense que j'ai lu de mieux de cet auteur. Déjà, Un travail comme un autre, c'est pas un livre comme un autre, dans le sens où c'est, d'un pur point de vue factuel, une œuvre d'artisan éditeur. On avait célébré ô combien le Dieu vagabond de Fabrizio Dori en soulignant, d'une part, la qualité extraordinaire de ce livre, mais la qualité de fabrication avec un dos toilé, un gaufrage du logo de la maison Sarbacane, chose qu'on va retrouver sur ce gros et beau livre qui donne l'impression d'être un objet, d'un bel objet avant que d'être un bel objet à lire.
C'est sûr, avec un choix de papier en particulier, on le sent tout de suite sous les doigts, qui vraiment est noble.
Voilà, c'est une cohérence qui est tout à l'honneur du métier d'éditeur que pratique avec une noble constance Sarbacane. Une fois de plus, et je radote, les auditeurs ont le droit de se plaindre quand je dis que je radote. Non seulement ils ont le droit de se plaindre du fait que je radote, mais que je dise que je radote. C'est un roman que je n'avais pas lu. Et alors, je vais émettre une théorie qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que je sens immédiatement si le roman d'origine a des qualités narratives qui souffrent de la transcription, en l'occurrence sous forme de bande dessinée, et je perçois, alors c'est prétentieux, hein, je perçois si l'adaptation est réussie. Je vais faire un parallèle avec un livre ô combien célébré qui s'appelle « Au revoir là-haut » de Pierre Lemaitre, que je n'ai pas lu sous forme de roman, j'avoue humblement, que j'ai lu sous forme d'adaptation en bande dessinée, et quelque chose me dit que le roman est bon, voire excellent, mais l'adaptation m'avait tellement déçu, je sentais que ça fonctionnait pas, que ça venait certainement de l'adaptation. Là, je n'ai que des éloges à faire du roman d'origine, dont je sens la force, la puissance intrinsèque, et surtout de l'adaptation qui se lit d'une traite, alors que c'est pas un livre facile, du point de vue esthétique et du point de vue narratif, par rapport à ce que ça raconte. C'est pas un livre gratifiant. C'est un livre dur.
Oui, il faut pas être trop dépressif quand on lit ce genre
non,
de livre.
Non, c'est un livre qui, on l'a pas dit encore, qui se situe dans l'Amérique de la Grande Dépression. L'Amérique qui va jeter sur les routes des milliers de fermiers, d'ouvriers. J'allais dire, c'est la Grande Dépression, mais c'est aussi une situation qui s'est reproduite au moment de la crise financière de 2008, où un nombre impressionnant de personnes ont été littéralement jetées. Des rues entières de maisons ont vu leurs propriétaires expropriés. Les gens ont été littéralement jetés sur le trottoir. Et j'ai peur, mais je ne veux pas jouer les prophètes, les Cassandres, que ce genre de choses se reproduisent dans un avenir très proche.
Oui, peut-être que la situation que nous vivons à l'heure actuelle aboutira d'une certaine manière à cela, malheureusement. L'histoire se répète par conséquent. Vous faisiez un parallèle, quand on préparait cette chronique, avec des films qui relatent aussi cette époque, Les raisins de la colère, évidemment, on y pense.
Oui, ou les grands reportages photographiques mandatés par le président Roosevelt sur cette époque, on y pense, pour le contexte, pour le lieu géographique. Un travail comme un autre, c'est l'histoire d'une rencontre assez improbable entre un électricien. C'est un jeune homme... finalement assez naïf, qui est fasciné par l'électricité. Il y a quelque chose de magique pour lui, cette puissance infinie qu'il arrive à domestiquer, je pense, sans faire de psychanalyse, de bazar. Dans une ville, il va rencontrer une jeune fille qui s'adonne à la lecture. C'est une fille de fermier, et il va entreprendre de la séduire, ce qui va réussir non sans mal. Ils vont s'épouser, un enfant naît, la dépression arrive et la ferme de cette jeune fille...
Père de la jeune fille, oui.
Du père de la jeune fille, pour être précis. Est pris dans la tourmente économique et ils n'ont plus les moyens d'employer des ouvriers pour les aider à la faire tourner. Une solution, ça pourrait être de se mécaniser, mais il faut une source d'énergie. Roscoe, cet électricien, va dire, une source d'énergie sans payer, c'est très simple, il suffit de se brancher sur l'électricité, sur les poteaux. Moi, je sais faire ce qu'il va faire.
Oui, ça, il sait le faire parce que s'occuper d'une ferme, manifestement,
non,
pas
c'est
trop.
Non, hein. C'est peut-être un travail comme un autre, mais ce n'est pas un travail qui lui convient, c'est certain. Il va donc opérer le branchement. Dans un premier temps, tout va bien. C'est une réussite totale jusqu'à ce qu'un employé de la compagnie d'électricité s'occupe de la révision des branchements. Et comme c'est un branchement dont il n'avait pas connaissance et qui est tout à fait artisanal, il va mourir électrocuté. Roscoe va être condamné à la prison. Alors, je lisais une courte biographie de l'autrice du roman qui rappelait que la prison de Philby, où il va être détenu, avait mis en place un programme assez novateur de réinsertion, en tout cas d'éducation des prisonniers. Pourtant, il va connaître le parcours qu'on imagine inévitable d'un prisonnier soumis aux humiliations, à la violence, aux rapports de force. Il va apprendre plusieurs métiers. Il va surtout, et c'est un thème central du livre, il va devenir bibliothécaire de la prison. Donc, il va s'éduquer, il va avoir accès à la connaissance. Il va en sortir transformé, d'une certaine façon. Pendant son séjour en prison, il continue à être très amoureux de sa femme, qu'il n'a de cesse de lui écrire, de vouloir la retrouver, mais il n'a pas de réponse. Et une fois de plus, je radote, hein, je vais m'arrêter là dans la narration proprement dite du livre, parce que les dernières péripéties d'un travail comme un autre sont tellement fortes, sont tellement puissantes d'un point de vue émotionnel, que ce serait dommage de même déflorer l'histoire arrivée à ce stade.
Mais vous l'avez compris, chers auditeurs, la place du livre est tout à fait prépondérante hein, dans cette histoire aussi, en plus du travail, évidemment. Alors, peut-être un tout petit mot sur Virginia Reeves, justement, qui est l'autrice de cet ouvrage, du roman d'origine, parce qu'elle fait partie d'une... Comment est-ce qu'il faut dire ça de façon positive? Aux États-Unis, on apprend à être écrivain.
Oui, je pense que c'est quelque chose qui vient... très doucement en France, avec les ateliers d'écriture pour écrivains amateurs. Mais je pense qu'on reste encore sous le fantasme de l'écrivain touché par la grâce et visité par l'inspiration. Aux États-Unis, on vous apprend à écrire, littéralement. Il y a des formations très complètes, alors qui sont à la fois respectées et un peu moquées, parce que l'autrice, en l'occurrence, a bénéficié d'une formation sous l'égide d'une fondation James A. Michener. Et Michener, c'est un écrivain qui a connu le succès pour des grands romans historiques populaires. Donc, pour certains milieux branchés américains, c'est pas très valorisant. Donc c'est quelqu'un qui revendique une formation très pragmatique, très détaillée, puis très ancrée dans la réalité, avec un souci de la psychologie, de dessiner les caractères des personnages, très concret. Voilà. Je pense que c'est le terme qui convient, qui est à la fois d'une redoutable efficacité très américaine. Donc c'est typique d'une formation à l'américaine, et en même temps, ça peut être pour certains dévalorisant, mais je le répète, c'est un merveilleux roman, c'est en tout cas une magnifique adaptation avec un dessin qui a une force, l'emploi du gros plan, comme si on était en face au personnage quand il parle, un dessin qui accentue le côté, j'ai failli dire grotesque, mais pas flatteur, mais c'est des gens qui sont cabossés par la vie. On n'est pas dans un dessin séduisant, on est dans un dessin vrai, brut.
Qui correspond à l'époque.
Puissant.
Ouais, tout à fait. Et à l'histoire. C'est pas des réserves du tout que l'on émet là, hein, par rapport à
non,
ce récit.
Non, c'est une caractérisation. En
fait. Tout à fait. Et ce récit mérite absolument d'être lu sous ces deux formes, très certainement, et en particulier sous ce format bande dessinée proposé par les éditions Sarbacane, un travail comme un autre d'Alex W. Inker, d'après le roman de Virginia Reeves. Merci Thierry, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lectures tout aussi passionnantes.